La Marche du Monde, présentée par Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. Ils ont participé à la Première comme à la Deuxième Guerre mondiale, mobilisés en Europe et dans le Pacifique, tout en étant victimes de ségrégation raciale, considérés comme les soldats de seconde zone dont il fallait se méfier, méprisés ou humiliés par des officiers blancs imprégnés de préjugés. Au total, plus de 900 000 soldats noirs ont combattu dans les rangs de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a pourtant fallu attendre 1948 pour que le président Harry Truman ordonne par décret aux instances militaires de mettre fin à la ségrégation raciale.
There is no justifiable reason for discrimination because of ancestry or religion or race or color.
Rien ne justifie la discrimination en raison des ancêtres, de la religion, de la race ou de la couleur, déclarait le président Truman. Un moment important dans l'histoire de l'armée américaine et dans la longue marche des soldats africains-américains vers l'égalité. Alors comment la guerre 39-45 a-t-elle amené la question raciale au premier plan? Quel impact a eu le conflit sur le mouvement des droits civiques? Et que s'est-il passé entre 1941 et 1945 à Fort Huachuca, en plein désert de l'Arizona? On en parle avec nos invités. Pauline Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, directrice adjointe de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, et vous venez de publier « Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945 » aux éditions du Seuil, dans la collection « L'univers historique ». Nicolas Martin-Breteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de l'histoire des USA et de l'histoire africaine-américaine. Vous avez publié « Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle », livre paru en 2020 aux éditions de l'EHESS. Pauline Pérez, comment vous êtes-vous intéressée à ces deux divisions de 15 000 soldats africains-américains confinés successivement par l'armée dans ce qui fut pendant presque 4 ans le plus grand camp d'entraînement noir de l'histoire des États-Unis?
Bien, j'y suis arrivée par le camp précisément, par Fort Huachuca, qui était un camp, un ancien fort des guerres indiennes que je ne connaissais pas. Et je l'ai découvert en fait à l'occasion d'une recherche sur la déségrégation des hôpitaux qui portait sur une période ultérieure et qui se référait toujours à cet exemple, hein, ce modèle de déségrégation d'un hôpital public qui avait eu lieu à Fort Huachuca.
Les États-Unis comptent alors deux All Black Posts. Le premier se trouve à Tuskegee, en Alabama. L'autre, c'est Fort Huachuca, en Arizona. Donc, pourquoi appelle-t-on ces deux bases militaires des All Black Posts?
Parce que n'y sont basés, n'y sont entraînés que des soldats africains-américains sous commandement blanc. Et les autres soldats africains-américains de l'armée qui sont à l'entraînement au début de la guerre le sont sur des bases qui sont ségrégées, mais sur lesquelles s'entraînent des Noirs et des Blancs. Ça veut dire que Noirs et Blancs peuvent se voir, se jauger, comparer leur situation. Alors que Huachuca, qui est vraiment le poste le plus grand, hein, jamais dans l'histoire des États-Unis n'avait été entraîné un tel nombre de soldats africains-américains au même endroit, et bien sur ces deux camps, ce ne sont que des soldats noirs.
Mais quand on imagine Fort Huachuca, on pense à une caserne, mais c'est quasiment une ville.
Oui, c'est la troisième ville de l'Arizona pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça, je l'ai découvert en y allant, parce que moi, je connaissais mal le monde militaire. Mais une base, c'est un énorme terrain là, qui se déploie sur les plaines du désert et puis qui remonte sur les monts de Huachuca qui font frontière avec le Mexique. Et c'est au centre de cet immense terrain. C'est toute une ville avec effectivement des casernes, mais il y a aussi des stades, des piscines, des salles de spectacle, une base de parade. Enfin, voilà, c'est une immense ville avec les deux hôpitaux, une prison. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre en autarcie, en confinement, même s'il y a des liens avec le monde civil, hein, qui est aux portes de la grille, hein, de Huachuca et vers lequel, en fait, le fort, hein, s'étend et a une influence également sur la vie civile et les civils qui vivent à côté.
Pauline Pérez, Tuskegee est devenue célèbre alors que Fort Huachuca est tombé dans l'oubli. Pour quelle raison?
Alors, je pense que Tuskegee est devenu célèbre grâce à un effort en fait, de réhabilitation et d'héroïsation des aviateurs qui ont été entraînés là-bas. Hein. Tuskegee, c'est déjà un lieu connu parce que c'est là que Booker T. Washington avait créé son fameux Tuskegee Institute à la fin du 19e siècle, qui était en quelque sorte une université pour l'apprentissage des métiers manuels pour les Africains-Américains, pour qu'ils puissent faire l'apprentissage de talents et montrer leurs valeurs
à
la société blanche. Donc Tuskegee avait déjà une histoire pour les Africains-Américains. Il a accueilli également un hôpital de vétérans dans l'entre-deux-guerres. Et puis, lorsqu'il s'est agi d'ouvrir un lieu d'entraînement pour les aviateurs américains, ce qui a été une conquête très forte obtenue par les activistes africains-américains, tout de suite, la base de Tuskegee a été choisie. Et les aviateurs de Tuskegee ont fini par voler au-dessus du ciel européen, en Allemagne, en Italie, et ce sont devenus des vrais héros qui ont été célébrés par des films, alors que les soldats de Huachuca, ce sont des soldats qui ont eu une expérience du combat beaucoup moins héroïque, et c'est probablement une des raisons pour lesquelles cette histoire n'est pas connue. Et c'est pour cela que ça m'a semblé intéressant de raconter une histoire qui est une histoire non héroïque, et dans laquelle on voit vraiment les soldats soumis à un ordre raciste et soumis à l'humiliation du commandement blanc.
Je vais citer le témoignage d'un ancien pilote, Omar D. Blair. « Nous voulions prouver au monde entier, écrit-il, et particulièrement au peuple américain, que les Noirs pouvaient faire autre chose que vider des cartons, que nous pouvions piloter les engins les plus sophistiqués, réparer les mécaniques les plus fines. » Nicolas Martin-Breteau, on comprend cette démarche, cette fierté. Et pourtant, à l'époque, la création de ces escadrons d'aviateurs noirs a été violemment critiquée par la plus ancienne organisation de défense des droits civiques du pays, la National Association for the Advancement of Colored People. Pourquoi ?
Eh bien, c'est un problème qui est ancien dans la société africaine-américaine de savoir si, oui ou non, il faut accepter une promotion sociale fondée sur la ségrégation raciale. Autrement dit, est-ce que c'est positif ou pas pour la communauté africaine-américaine d'avoir, par exemple, des garnisons militaires entièrement noires ? Du côté positif, ça fait participer les Africains-Américains à l'effort de guerre, et donc c'est un côté patriotique que l'on peut célébrer. Et du côté négatif, c'est toujours la reproduction, voire le renforcement des barrières raciales dans la ségrégation de la société américaine. Et la NAACP, de ce point de vue, aussi entre deux positions très difficiles à maintenir l'une et l'autre, au moins depuis la Première Guerre mondiale, puisque ces questions se posaient également pendant la Première Guerre mondiale.
La NAACP parle d'escadron Jim Crow. C'est presque insultant ou pas ?
Oui, absolument. Dire cela, c'est dénoncer le fait que les Africains-Américains ne seraient bons à servir leur pays que dans des corps militaires ségrégés, c'est-à-dire mis à part du reste de la nation. C'est exactement l'inverse de ce que recherchaient la NAACP et les activistes africains-américains à l'époque.
Il faut rappeler d'où vient ce terme de Jim Crow.
Jim Crow, c'est le terme qui désigne les lois de ségrégation raciale qui sont mises en place à la fin du 19e siècle, notamment dans le sud des États-Unis. Et c'est un terme qui, en fait, est emprunté au théâtre populaire américain, puisque c'est le nom d'un personnage de théâtre, un personnage noir, grotesque, idiot, fainéant, etc. Et donc ce terme de loi Jim Crow est extrêmement péjoratif puisqu'il réactive un certain nombre de préjugés, de stéréotypes raciaux extrêmement violents à l'égard des Africains-Américains.
On peut dire que les lois Jim Crow ont été la revanche des États sudistes après la guerre de sécession ?
Absolument. Le Sud perd la guerre de sécession, l'esclavage est aboli, mais d'une certaine façon, le Sud gagne la paix en imposant sa vision des relations raciales à l'ensemble du pays. Autrement dit, deux générations après la fin de la guerre de sécession, c'est le Sud qui a imposé sa culture raciale à l'ensemble des États-Unis, et c'est la raison pour laquelle les lois raciales qui séparent strictement dans l'espace, dans la vie civile, dans la vie intime, noir et blanc aux États-Unis, sont une revanche directe des États du Sud sur leur défaite en 1865.
Old Jim Crow.
Pauline Peretz, à Fort Huachuca, que voulait-on inculquer aux fantassins des 92e et 93e divisions d'infanterie?
Bien, normalement, on les a réunis dans cette base pour leur inculquer les fondamentaux de la vie militaire, c'est-à-dire la discipline, l'obéissance, mais c'est-à-dire aussi le dressage des corps, comme c'est fait sur des camps blancs ou des camps mixtes ségrégés. Donc l'incarnation, l'appropriation dans le corps des gestes, du combat et du maniement des armes. Mais ce dont il s'agit aussi, c'est de leur faire accepter un ordre raciste blanc que certains ont connu dans leur vie civile avant de venir à Huachuca.
Oui, parce qu'en fait, les soldats venaient de tout le pays, du sud, ségrégationniste, comme du nord, peut-être un peu moins raciste.
Alors, ils connaissaient le racisme aussi, ils connaissaient la ségrégation. Hein. Beaucoup d'entre eux viennent de Détroit, de Chicago. La ségrégation résidentielle a déjà lieu dans ces villes-là depuis que la grande migration a fait venir une partie des Africains-Américains des États du Sud vers les États du Nord. Mais ce n'est pas la même ségrégation. Et c'est très intéressant de voir notamment les récits qu'ont pu faire les soldats sur le chemin de Huachuca, parce qu'ils ont traversé tous les États-Unis en train. Et petit à petit, ils ont fait la découverte des régimes ségrégationnistes du Sud, notamment dans les commerces, dans les trains. Et lorsqu'ils descendent du train pour aller acheter une boisson, on leur dit non, ici c'est white only, donc vous allez ailleurs. Et donc, sur le fort, ce qui est mis en place, c'est un régime racial qui est calqué sur celui du Sud. Et ça, c'est une décision qu'a prise l'état-major des États-Unis pendant la guerre, un état-major qui est intégralement composé d'hommes blancs, pour la plupart d'entre eux venus du Sud, et qui ont vraiment la volonté de perpétuer cet ordre raciste.
Mais il y a quand même deux visions qui cohabitent ou qui parfois s'affrontent à Huachuca. Celle, on peut dire paternaliste, mais inventive de son commandant, le colonel Edwin Hardy, et celle raciste et tyrannique du chef de la 92e division, le général Edward Almond.
Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y avait un régime racial qui était lié au lieu, donc le fort qui est mis en place par un colonel Hardy dont vous avez parlé, qui est quelqu'un qui vient aussi du Sud, mais qui semble être plus pragmatique, inventif, et qui souhaite avant tout maintenir le calme sur sa base. Et pour ça, il est prêt à de l'audace en matière culturelle, en matière sportive, en matière médicale, et à finalement tolérer un certain nombre d'initiatives, même si je n'oublie jamais que dans son bureau était accroché en évidence donc le portrait d'un des héros de la cause confédérée. Donc il y a lui, et puis
il fait ouvrir, on précise quand même, il fait ouvrir devant les grilles du fort une enceinte destinée à la prostitution sous contrôle militaire.
Ouais, ça c'est quelque chose qui s'est fait sur d'autres bases, en particulier à Hawaï. Là, la difficulté, c'est que il s'agit d'ouvrir un bordel aux portes d'une communauté blanche. Donc ce bordel, il va être ouvert dans un endroit qui est vraiment une extension du fort en territoire civil, qui va s'appeler The Hook, ça veut dire en gros l'endroit où vous allez vous faire détrousser. Et l'armée va organiser non seulement la prostitution, mais aussi toute la politique de prévention de la diffusion de la syphilis. Et c'est quelque chose qui va être reproché au colonel Hardy lorsque l'inspection générale de l'armée va venir faire une visite sur le fort.
Alors il faut aussi ouvrir un lieu de détente ségrégué, mais qui sera financé par des hommes d'affaires noirs.
Oui, c'est un lieu qui s'appelle le Green Top, qui est aussi situé hors de l'enceinte. Et il va convaincre, grâce à un homme qui s'appelle Truman Gibson, qui est en fait l'adjoint de l'aide civile au secrétaire de la Défense, qui vient de Chicago, ce Gibson, il va obtenir en fait le soutien des partenaires économiques de son père, qui est un des grands assureurs noirs de Chicago.
Nicolas Martin-Breteau, pourquoi est-ce que les hommes d'affaires noirs acceptaient de financer ce genre de lieu ségrégué, même si c'était un lieu de détente, au profit des soldats noirs de Huachuca ?
Il y a sans doute deux raisons. La première, c'est que ça peut être effectivement une source de profit financier. Puis la deuxième, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça participe aussi à une forme d'élévation raciale, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire de respectabilisation de la communauté africaine-américaine en la faisant accéder à un certain statut social qui lui était refusé auparavant. Encore une fois, il est contradictoire de construire des forts entièrement noirs. Ça peut être positif sous un certain angle de vue et ça peut être très négatif également sous un autre. La communauté africaine-américaine se débat dans cette contradiction depuis au moins un demi-siècle à l'époque.
Entre le compromis et le refus de toute concession.
C'est ça.
L'autre homme fort de la base, c'est le général Almond, qui lui s'adresse à ses hommes en les appelant « niggers », nègres. Il aura même dit aux officiers noirs, vous le racontez dans votre livre, « je vais vous tolérer parce que l'armée me l'a demandé, mais je ne pense pas que vous arriverez à devenir de bons soldats. Vous avez trop de sang de singe en vous. » Comment ont réagi les officiers noirs, Pauline Perretz?
Ils ont essayé de se soulever, mais la discipline et la menace de la justice militaire est telle que, en fait, les mesures de soulèvement qui ont été imaginées sont assez modestes. Ça a été des destructions de matériel, du refus de participer aux manœuvres. Et il y a quelque chose de plus fin qu'on retrouve dans d'autres armées, c'est feindre la maladie. Et cette feinte de la maladie, elle est particulièrement habile à Huachuca parce que l'hôpital est un endroit qui est tenu par les médecins africains-américains et qui se rendent bien compte qu'en fait, les malades qu'ils ont sont des faux malades, mais qui vont quand même les couvrir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de ceux que l'armée appelle les malingerers, donc des gens qui feignent souvent la maladie mentale. Mais il faut dire que les Africains-américains qui arrivent sur le fort, même s'ils ont passé lors de leur conscription l'examen médical, sont des hommes qui sont en mauvais état physique parce que la médecine publique pour les Noirs dans les États du Sud est de très mauvaise qualité, voire inexistante à certains endroits. Donc ce sont des gens qui ont des problèmes de dentition, qui ont des problèmes de respiration, qui n'ont jamais été, malgré leur âge, jeune âge, hein, on parle de gens qui ont une vingtaine d'années, bah, bien soignés, bien traités.
Cap Calloway avec les Nicholas Brothers aux claquettes. Je sais que vous les aimez beaucoup, Pauline.
Tout à fait. Et beaucoup d'admiration.
Ils font partie des nombreuses stars noires des années 40 qui sont venues se produire devant les soldats à Fort Huachuca. Pourquoi le colonel Hardy a-t-il voulu faire de cette base militaire l'un des camps les mieux équipés des États-Unis en installations culturelles et sportives?
Il s'agit vraiment d'occuper les hommes et les femmes qui sont basés sur le fort, hein, de leur faire oublier tout ce temps et cette discipline contrainte qui est souvent un temps d'ennui et un temps d'incertitude parce que ces hommes ne savent pas quand ils rentreront chez eux et ils ne savent pas s'ils vont aller combattre ou pas. Et l'idée d'accepter un entraînement humiliant, sans perspective, d'aller pouvoir montrer de quoi on est capable est quelque chose qui est vraiment insupportable, comme on le voit dans de nombreux témoignages qui ont été écrits ou rapportés après la guerre. Donc l'idée, c'est de faire de Huachuca un Hollywood noir, en fait.
Oui, parce qu'ils voient très très grand.
Oui, il voit très grand. En fait, à l'époque, le United Service Organization, USO, et le Hollywood Victory Committee organisent des tournées de films et de distributions entières. Mais à Huachuca, à l'exception d'une femme qui est une chanteuse qui s'appelle Dinah Shore et qui est blanche, toutes les artistes qui viennent, et les sportifs de la même manière, sont africains-américains. Et donc, on a les All Black Cast, des plus grandes comédies musicales. Lena Horne, qui est vraiment la grande star africaine-américaine du moment, qui est en train de faire sa percée dans le cinéma hollywoodien, vient plusieurs fois.
Louis Armstrong,
tout à fait. Et les fameux Nicholas Brothers, qui sont donc des danseurs de claquettes totalement inégalés à l'époque, qui dansent avec Cap Calloway, donc dans les plus grands clubs de Harlem, et dont on vole, ont les danseurs blancs, essaient de voler les pas, parce qu'ils ne sont pas capables, eux, d'inventer inventer des combinaisons aussi sophistiquées et aussi élégantes. Et l'un d'entre eux va être d'ailleurs posté sur le fort pendant un certain nombre de mois.
Mais celui qui suscite le plus d'enthousiasme, peut-être, c'est le boxeur Joe Louis, l'homme qui, en 1938, a battu l'Allemand Max Schmeling.
15 rounds, wearing purple trunks, 192, former heavyweight champion, coming back in the role of a challenger for heavyweight honors, Max Schmeling. And his very capable opponent, wearing black trunks, 198, one of the greatest heavyweights in the annals of Fistiana, Joe Louis.
Joe Louis, champion du monde poids lourd, c'est le triomphe de la démocratie américaine sur l'ordre racial nazi. Nicolas Martin-Breteau, si Joe Louis est adulé par les Noirs, c'est aussi un héros parfait pour l'armée.
Oui, alors Joe Louis est un des plus grands athlètes africains-américains de l'histoire. C'est l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il est peu connu en France en général, hein, il a été éclipsé plus tard par Mohamed Ali, mais dans les années 1930, c'est vraiment l'une des figures de proue de la communauté africaine-américaine parce que précisément, c'est un homme viril, fort, puissant, qui peut mettre en déroute des boxeurs blancs et donc il charrie avec lui, son image charrie celle de la dignité de toute une communauté opprimée. Sa victoire contre Schmeling est, comme vous l'avez dit, extrêmement symbolique puisque voilà, il met à bas l'ordre raciste nazi alors triomphant en Allemagne. Et pour l'armée américaine, quelqu'un comme Joe Louis peut être utilisé pour justement exalter hein, les troupes africaines-américaines qui sont stationnées dans les forts à l'intérieur du pays. Et c'est une stratégie qui sera aussi utilisée pendant la guerre froide puisque beaucoup d'artistes africains-américains, de sportifs africains-américains, d'actrices aussi et d'acteurs américains seront envoyés de par le monde visiter les garnisons noires américaines pendant justement des conflits comme la guerre du Vietnam ou autre.
Est-ce que la réussite d'un Joe Louis ne va pas conforter tout de même les idées reçues sur les aptitudes physiques naturelles, entre guillemets, des Africains américains ?
Si, et c'est tout le paradoxe en fait de la stratégie d'élévation de la race, l'idée selon laquelle les Noirs américains doivent prouver leur valeur et leur égalité avec les Blancs, ça peut être très positif d'un certain point de vue et ça renforce aussi un certain nombre de préjugés, notamment quand il s'agit de sport, puisque cela renforce l'idée selon laquelle les Noirs sont de façon innée aptes au sport, qu'ils sont plus durs à la tâche, qu'ils sont plus puissants que les Blancs, etc. Et de fait, Joe Louis aura eu tendance dans sa carrière à renforcer un certain nombre de préjugés, même s'il a été voilà, glorifié comme un grand champion de boxe qui a été célébré dans toutes les communautés africaines-américaines. À chacune de ses victoires, ce sont des scènes de liesse dans les communautés africaines-américaines, comme à Harlem, pour la victoire sur Max Schmeling.
Pauline Peretz, au stade, blancs et noirs assistent côte à côte au match de baseball. Est-ce que ces événements culturels, concerts, expositions et sportifs, matchs, exhibitions, vont mettre fin à la séparation raciale ?
Sur le fort, dans une certaine mesure, j'ai retrouvé des photos qui montrent que, dans certains cas, noirs et blancs peuvent être à côté. Mais j'aimerais préciser le fait qu'en fait, lorsqu'on parle de blancs, il s'agit uniquement d'officiers. Donc, les noirs qui sont à côté d'eux, ce sont également des officiers. Et je pense qu'il faut vraiment introduire là une distinction de classe, une distinction qui a lien avec le statut de ces hommes noirs, qui sont des hommes qui constituent vraiment l'intelligentsia noire de l'époque. Ils sont extrêmement qualifiés. C'est le cas notamment des médecins africains-américains qui exercent dans les meilleurs hôpitaux du pays. Et les autres officiers sont en général des gens qui sont allés dans des collèges, qui sont très éduqués, qui ont dans la vie civile des fonctions qui sont exceptionnelles dans la communauté africaine-américaine. Il y a également un certain nombre d'artistes qui font partie de la compagnie intégrée, donc racialement intégrée, des services spéciaux qui s'occupent de la programmation culturelle et sportive sur le fort. Et vraiment, le sport comme la culture, ce sont des domaines sur lesquels les exceptions à la ségrégation stricte sont admises. Alors, domaine dans lequel, effectivement, il y a des préjugés culturalistes, physiques, liés aux aptitudes qui seraient naturelles des Africains-Américains, donc artistes comme sportifs. Mais là où il y a, pour moi, quelque chose de vraiment novateur, c'est dans l'idée que les beaux-arts pourraient être un lieu de consensus sur ce fort. Pour moi, c'est vraiment très nouveau, cette idée que, venant de la part d'un commandant, de proposer aux Africains-Américains, en particulier aux officiers, d'organiser une exposition d'art sur le fort. Et donc, le colonel Hardy va faire à un moment du fort une galerie d'art noir en plein milieu de l'Arizona. Et il va en fait demander à des artistes qui ont été financés par le Federal Arts Project pendant le New Deal à produire des œuvres d'art, sculptures, peintures murales, à venir les présenter et les exposer. Et il ne se rend pas compte que la plupart de ces œuvres ont finalement un message très subversif d'élévation de la race, de fierté raciale, certes, mais aussi de contestation de l'ordre blanc. Et là, pour moi, c'est vraiment la manifestation d'un malentendu sur ce que est l'art noir à cette période.
Pauline, vous en avez parlé tout à l'heure, la personnalité la plus marquante peut-être de Fort Huachuca, c'est Midian Bousfield, le directeur de l'hôpital noir, qui va réussir la prouesse de faire de son établissement un centre d'excellence où même les blancs vont venir se faire soigner. Racontez-nous l'itinéraire incroyable de Midian Bousfield.
Mais Bousfield, c'est quelqu'un qui vient de l'élite africaine-américaine de Chicago, où il n'est pas né, mais où il a exercé pendant de nombreuses années. Et c'est vraiment un race man qui est accepté par les blancs comme un égal. Et d'ailleurs, c'est une des personnes qui va promouvoir la médecine noire pendant tout l'entre-deux-guerres, en acceptant l'aide des fondations philanthropiques blanches. Donc c'est quelqu'un qui se trouve vraiment dans le schéma dont on parlait tout à l'heure, quelqu'un qui va accepter la ségrégation pour promouvoir le talent et l'excellence africaine-américaine, avec cette idée qu'au bout d'un moment, quand cette excellence sera suffisamment prouvée, les Africains-Américains pourront exercer aux côtés des blancs. Et c'est vraiment cette conviction qui l'anime lorsqu'il accepte de diriger l'hôpital militaire noir de Huachuca, et il convainc en fait tous ses collègues, ses amis qui ont le même type de vie que lui dans l'élite africaine-américaine, des gens qui vivent dans des belles maisons, qui ont des revenus importants et qui soignent en fait les plus fortunés des Africains-américains.
Il devait avoir beaucoup de charisme pour convaincre ses collègues praticiens de tout abandonner pour venir le rejoindre en plein désert au fin fond de l'Arizona.
Je ne sais pas s'il avait tellement de charisme. Les photos que j'ai vues de lui montrent quelqu'un d'assez bougon, pas toujours apprécié par ses collègues, mais je pense que ce qui les convainc le plus, c'est ces hommes, c'est à la fois la perspective de servir comme officier médical, et ça, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé dans l'armée, et de le faire loin du front, pas dans des hôpitaux de campagne. Et par ailleurs, très vite, la réputation de l'hôpital de Huachuca est excellente, parce que cet hôpital a été créé de fond en comble pour la guerre à partir de 1941-1942, et donc il est équipé des technologies de soins les plus à la page, et il va très rapidement obtenir l'attention de l'état-major et en particulier du bureau du médecin général. Donc on va envoyer là-bas, on va livrer à Huachuca des traitements qui ne sont pas disponibles sur d'autres bases. Par exemple, la pénicilline est utilisée à Huachuca de manière pionnière. Donc avec tous ses atouts, Bousfield arrive à convaincre ses collègues de Chicago et d'ailleurs de venir exercer sur le fort.
Autre fait inédit de l'expérience Fort Huachuca, l'arrivée d'une compagnie de femmes noires. Ce ne sont pas des soldats, du moins au début, ce sont des auxiliaires administratives. Pourquoi se sont-elles portées volontaires ?
Alors, le corps des WAC, le Women Army Corps, est créé pour la première fois pendant la Seconde Guerre mondiale contre vraiment les préjugés de genre de l'armée. Et à ces préjugés de genre vont se rajouter des préjugés raciaux. Et il y a une double réticence à accepter des femmes africaines-américaines dans l'armée. Mais toutes ces femmes, au départ, viennent à Huachuca, puisque c'est le lieu qui peut accueillir le plus de femmes d'un coup. Et les femmes qui s'engagent, ce sont des femmes qui, pour la plupart, viennent de l'élite, hein, qui sont, pour beaucoup d'entre elles, très qualifiées et qui ont besoin, l'envie de montrer leur talent et de pouvoir l'exercer dans un lieu où il n'y aura pas de rivalité avec des femmes blanches. Et ça, c'est en quelque sorte l'envers, hein, de la ségrégation qui, à Huachuca, va donner des chances uniques à des Africains-Américains et des Africaines-Américaines. Donc, à Huachuca, certaines parmi les moins qualifiées, donc celles qui sont au rang les plus bas, vont conduire les camions, vont mettre de l'ordre dans les dossiers, dans les bureaux, mais d'autres vont vraiment avoir des fonctions beaucoup plus nobles, beaucoup plus appréciées, d'organisation administrative, de conseil aussi de certains officiers africains-américains qui tiennent les bureaux. Et c'est aussi une expérience d'émancipation personnelle.
J'allais vous le dire, parce que vous racontez comment elles vont goûter à la liberté, finalement.
Ouais, dans ce désert-là où le soleil chauffe, où le soleil donne de la force à des cactus, à une nature qu'elles n'ont jamais connue auparavant, mais elles vont s'aventurer au-delà des grilles du fort.
Elles vont même traverser la frontière pour aller au Mexique.
Oui, alors le Mexique, c'est un endroit où on est vraiment libre, hein, à cette époque-là, où il n'y a pas de contrôle sur les permissions, où le racisme est bien moindre que du côté états-unien de la frontière. Et puis, cette expérience est aussi l'occasion de flirt, l'occasion de relations lesbiennes pour ces femmes qui sont là, hors du contrôle de leurs frères, de leurs pères, et pour celles qui sont mariées aussi de leur mari. Donc il y a un certain nombre d'unions qui ont lieu, légales, religieuses, qui ont lieu sur le fort, et ce qui est très largement encouragé par toutes les autorités sur le fort, parce que c'est gage de stabilité pour les soldats et les officiers. Mais il y a aussi un certain nombre d'expériences considérées comme déviantes à l'époque, tant dans l'armée que hors de l'armée.
Qui sont réprimées ou pas ?
Qui sont réprimés jusqu'à un certain point parce que le corps des WAC souhaite faire le moins de vagues possible. Donc, réprimer trop fortement, c'est donner de la visibilité à des affaires qui sont gênantes. Donc, les affaires gênantes, c'est l'exercice de la prostitution par les WAC, hein, et puis également des relations lesbiennes qui sont finalement tolérées. Don't you know the big D is burning? Ain't a thing in the world that Johnny can do. My hometown's burning down to the ground. Western and Vietnam. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I just don't know what it's all about. Oh, it started on 12 and Claremont that morning. I don't know what it's all about. The fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Firebomb busting all around me. And soldiers was everywhere. Oh, firebombs falling all around me. And soldiers standing everywhere. I could hear the people screaming. Sirene fill the air.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI, consacrée à la ségrégation dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes toujours en compagnie de deux spécialistes de la question noire aux États-Unis, Pauline Peretz et Nicolas Martin-Bretot. Le racisme à l'encontre des soldats africains-américains, l'armée américaine ne s'en est pas débarrassée lorsqu'elle a volé au secours de la France en juin 1944.
Sa veste d'officier est encore intacte. 75 ans après, Johnny Jones l'a précieusement conservé comme trace de son passage dans l'armée américaine.
The invasion has started.
Le 6 juin 1944, il est l'un des 2000 soldats afro-américains à débarquer en Normandie. Dans une armée ségrégationniste, il est cantonné à ravitailler les combattants en nourriture et munitions.
J'étais le seul noir dans ce groupe de 494 officiers.
Banni du front, mais exposé en première ligne. Aujourd'hui âgé de 99 ans, il se rappelle très bien son face-à-face avec un soldat allemand sur la plage d'Omaha Beach. Touché par balle, il riposte avec son arme, une image à jamais gravée dans sa mémoire. L'exploit des soldats noirs n'a pas d'écho aux États-Unis. À leur retour, la discrimination sévit encore.
J'ai dû laisser ma place dans le bus aux anciens prisonniers allemands que j'avais croisés en prison. Vous pensez vraiment que j'ai aimé ça? J'ai combattu pour quoi? La liberté pour nos ennemis de s'asseoir à ma place? Je n'aime pas ça. Ce sont des choses qui reviennent vous hanter.
Un témoignage pour que le rôle des soldats afro-américains lors du débarquement soit enfin reconnu.
Reportage de Chloé Tixier sur CNews le 6 juin 2019. Pauline Peretz, est-ce que l'armée américaine a vraiment fait pression sur les autorités françaises pour que les soldats noirs qui ont débarqué le 6 juin sur les plages de Normandie soient invisibilisés à la libération ?
Je pense qu'il faut un peu relativiser ce jugement. Des soldats africains-américains qui ont joué des rôles de premier plan pendant ce débarquement, il y en a eu. Il y a des recherches qui ont été faites récemment, notamment sur les soldats africains-américains qui ont manié les dirigeables. Il y a également tous ces soldats africains-américains qui ont approvisionné le Red Bull Express. Mais c'est vrai que la réalité de la plupart des soldats africains-américains, c'est l'invisibilisation et c'est... aussi la perpétuation des fonctions de logistique et de soutien. Il n'empêche que beaucoup des soldats africains-américains qui racontent leur expérience de rencontre avec les populations françaises et de la même manière avec les populations en Italie et même en Allemagne pour les soldats qui sont entrés sur le territoire allemand, ce sont des expériences qui sont plutôt des expériences d'amitié, de rencontre et de découverte mutuelle. Donc certes, l'expérience militaire côté américain était une expérience de ségrégation totale et le témoignage qu'on vient d'entendre est très éloquent à cet effet. Et moi, ce qui me marque plutôt dans ce témoignage, c'est ce qu'il raconte du retour en fait au pays, plus que ce qui s'est passé pendant les combats.
Justement, comment s'est passé après la guerre le retour à la vie civile des soldats africains-américains démobilisés ? Je vous propose d'écouter l'historien Pape Diaye dans l'émission Concordance des temps sur France Culture en 2015.
En 1945, les soldats noirs qui, comme en 1919, rentrent au pays, ils rentrent avec une expérience militaire et ils gardent leurs fusils. Et on s'inquiète beaucoup dans le sud de ces jeunes qui ont combattu en Europe et qui ne sont plus disposés à s'asseoir à l'arrière des bus. Dès lors, les incidents se multiplient dans les villes du sud des États-Unis, y compris à Washington d'ailleurs, car Washington est à bien des égards une ville sudiste, entre des policiers blancs et des soldats noirs démobilisés qui n'entendent pas se laisser faire. Bull Connor se distingue déjà par son acrimonie à l'égard de ces soldats.
Il y a même quelques officiers noirs désormais.
Il y a des officiers noirs, contrairement à la Première Guerre mondiale, qui parfois d'ailleurs font carrière par la suite dans l'armée américaine, mais ils sont très peu nombreux. L'ensemble de ces soldats noirs va constituer une force importante dans le mouvement pour les droits civiques. La Seconde Guerre mondiale forme des militants qui vont accompagner Martin Luther King et les autres dans leur combat à partir des années 50.
Nicolas Martin-Breteau, vous êtes d'accord avec cette analyse de Pam Diaye ? Vous diriez que cette guerre a été un moment d'accélération dans la lutte des Africains-Américains pour l'égalité ?
Absolument, c'est un jugement sur l'histoire africaine-américaine qui est juste. On pourrait même l'élargir à toutes les guerres, depuis la guerre de sécession, puis la Première Guerre mondiale et ensuite la Deuxième Guerre mondiale ont été des moments d'accélération du militantisme africain-américain pour l'égalité raciale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez une mobilisation de toute la communauté africaine-américaine pour poursuivre y compris pendant les combats à l'étranger, les mobilisations en faveur de l'égalité raciale, ce qui n'avait pas été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Je pense notamment à ce qu'on a appelé la campagne du W, c'est-à-dire rechercher la victoire contre le fascisme, contre le racisme à l'étranger, et rechercher la victoire aussi à la maison, aux États-Unis, contre le racisme. De ce point de vue, les Africains-Américains se battent sur deux fronts, un front domestique et un front plus global à l'étranger, dans le Pacifique et en Europe. Et de ce point de vue, la Seconde Guerre mondiale a été un marqueur d'une accélération tout à fait impressionnante du militantisme africain-américain qui débouche, comme le dit Pape Ndiaye, sur le mouvement pour les droits civiques dès la fin des années 1940 et le début des années 1950.
On va écouter un autre témoignage, celui de Melvin McNair, devenu Black Panther. C'est un extrait de l'émission de France Inter, Les Racines de la Colère, en janvier 2021.
Après l'université, je suis entré dans l'armée. Et on m'a dit que j'étais un peu programmé pour être commando.
Vous êtes parti faire l'armée en Allemagne, à Berlin.
Oui. Et donc, Berlin, c'était aussi confronté plus en plus avec le racisme, plus en plus avec la problématique du racisme, avec les officiers qui ne respectaient pas les Noirs, et toutes sortes de harcèlements. Le travail qui était réservé pour les Noirs, qui n'était pas le même pour les Blancs. On ne pouvait pas aller dans les mêmes endroits culturels que les Blancs, donc c'était assez séparé. Et les endroits où on pouvait, on confrontait les racistes qui disaient qu'on n'était pas le bienvenu. Donc, il y avait toujours des confrontations physiques. Il y avait des bagarres. Et donc, comme j'étais toujours un sportif d'haut niveau, je me suis engagé sur l'équipe de basket dans l'armée. C'est là qu'aussi, on se rend compte qu'il y avait aussi des Ku Klux Klan, il y avait des croix brûlées, des choses comme ça. Moi, j'ai joué dans des matchs de basket où, ouvertement, le public qui dit « sortez des nègres de terrain, abattez-les », des choses comme ça. Donc, il y avait toutes les insultes et, raciales. C'était des Américains blanches, des femmes, des soldats. Donc, après aussi, beaucoup ont commencé à se former aussi en groupe pour s'autodéfendre. Et tout ce qui résistait au racisme était envoyé, on peut dire, sélectionné pour aller au Vietnam. Donc j'étais sélectionné, mais là, c'est là que j'ai résisté. J'ai décidé d'aller dans la clandestinité. C'est au même temps que c'est dans l'armée que je me suis engagé dans le Black Panther. Mais dans l'armée, on ne portait pas le blouson cuir, ni le béret. Donc on portait des bracelets noirs. Et donc dans l'armée, c'est là que ma conscience politique s'est plus aiguisée, on peut dire.
Nicolas Martin-Bretot, comment le gouvernement américain assumait-il à l'époque le fait d'aller se battre à l'extérieur pour des valeurs qu'il n'appliquait pas aux États-Unis, à commencer par le principe d'égalité et de démocratie?
Oui, c'est une contradiction flagrante à l'égard des idéaux démocratiques américains que la perpétuation de la ségrégation raciale à l'époque. Je rappellerai que les États-Unis se donnent à eux-mêmes le nom d'arsenal de la démocratie pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieu où l'on fabrique les armes nécessaires à la défense de la démocratie dans le monde. Et puis plus tard, pendant la guerre froide, les États-Unis se désignent comme les leaders du monde libre. Évidemment, ces expressions sont contradictoires avec la réalité politique et sociale de ségrégation raciale et de violence raciste ouverte à l'égard des Africains-Américains. Et à l'époque, cela pousse le gouvernement américain à, privilégier une politique de plus en plus libérale à l'égard des Africains-Américains. On l'a vu au début de l'émission avec Harry Truman, qui va déségréguer les forces armées, qui va également déségréguer la bureaucratie fédérale. Et puis mener à un certain nombre d'avancées, notamment avec la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1954 d'abolir en fait la légalité de la ségrégation raciale. Tout cela dans un contexte mondial où l'ONU, qui vient tout juste d'être créée, proclame à la face du monde que le racisme doit être absolument aboli et qui est voilà, un rappel au gouvernement américain que eh bien, ces pratiques officielles et officieuses sont tout à fait en contradiction avec les idéaux que se pose l'humanité au sortir de la Seconde Guerre mondiale.
Pauline Peretz, est-ce que selon vous, Fort Huachuca a fait bouger les lignes sur la question raciale ou est-ce que cela reste une expérience ambivalente?
Non, je suis persuadée que cela a changé quelque chose. Sinon, ça n'aurait pas eu de sens d'y consacrer un livre entier.
Gros livre très riche, passionnant.
Merci. Oui, je pense que de deux manières, en fait, l'expérience a joué. D'abord, sur le plan médical, qui est pour moi le plus clair, les médecins africains-américains ont pu montrer deux choses. Ils ont pu montrer que leurs partenaires, leurs équivalents blancs, voulaient travailler avec eux et qu'ils pouvaient être dans une position de leur apprendre et de partager leur savoir. Donc, ils ont montré que l'excellence médicale noire était reconnue par les Blancs et ils ont montré aussi que les Blancs n'avaient pas de prévention à être soignés par des Africains-Américains. Donc, l'intégration raciale de la médecine est possible. Et c'est quelque chose qui va mettre du temps à arriver, mais il va avoir progressivement des déségrégations d'hôpitaux militaires sur le front et loin d'abord en Asie et puis aussi en Europe. Donc première chose. Deuxième chose, c'est que penser en fait du combat des divisions africaines-américaines. Alors, je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, les expériences des soldats entraînés à Huachuca sur le front n'est pas très concluante. Mais il y a deux façons de lire cette déception. Une première, c'est de dire, et c'est ce que va soutenir quelqu'un comme Almond, qui va être dans les commissions de réflexion sur l'avenir racial de l'armée, et qui va dire, bah, vous avez vu, on les a entraînés dans les meilleures conditions possible, on a rajouté des semaines d'entraînement, on leur a donné des armes et pourtant ils ne savent pas se battre. Donc perpétuation des préjugés racistes à l'égard des soldats africains-américains qui existent depuis la Première Guerre mondiale. Mais la deuxième façon de lire cette expérience, c'est de dire, mais regardez, lorsque l'on entraîne les soldats africains-américains uniquement entre eux, ils ne sont pas confrontés aux véritables conditions de combat, ils ne sont pas mis dans des situations qui ressemblent à celles, de plus en plus à celles qu'ils vont rencontrer.
Et puis il n'y a pas non plus de remise en cause du commandement blanc.
Voilà, tout à fait, et ne se pose pas la question aussi du recrutement, du vivier des soldats africains-américains. Donc tous les activistes vont dire, cette expérience des 92e et 93e divisions d'infanterie au combat, c'est la preuve qu'il faut arrêter ce genre de pratique et qu'il faut désormais intégrer l'armée. Alors cette intégration, elle va avoir lieu sous la forme de l'adoption d'un décret présidentiel en 48 qui va interdire la discrimination. Quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, enfin l'armée est vraiment devenue cette vitrine de l'intégration raciale, mais aussi de genre, de l'État fédéral. C'est un des lieux de l'État fédéral qui est le plus tolérant, le plus ouvert et qui peut donner le plus sa chance aux minorités. Je ne veux pas me charger de faire la promotion de l'idéal de mixité raciale, de genre, ethnique hein, que l'armée se propose d'être. Mais il faut dire que quand même qu'il y a eu une singulière transformation dans ce lieu.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de la Marche du Monde. Pauline Peretz, je renvoie nos auditeurs à votre livre « Une armée noire, Fort Huachuca, Arizona, 1941-1945 », paru aux éditions du Seuil. Nicolas Martin-Breteau, vous êtes l'auteur de « Corps politique, le sport dans les luttes des Noirs américains pour l'égalité depuis la fin du 19e siècle ». C'est paru en 2020 aux éditions de l'EHESS. Merci à Sophie Janin qui a réalisé cette émission que vous pouvez retrouver sur notre appli Pure Radio ou sur notre site rfi.fr. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.